Père, qui suis-je pour dire ta parole? Qui sommes-nous pour prétendre l'écouter? Père, nous venons néanmoins auprès de toi. Avec ta propre parole, tu as dit que l'Esprit nous enseignera toutes choses qui sont maintenant déjà en Christ. Tu as dit que tu feras écouter les sourds. Père, que l'Esprit Saint fasse cela maintenant, puisque tu es fidèle à faire ce que tu dis. Amen. Matthieu au chapitre 5. À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur son support, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. Là, j'aurais besoin de la première image, enfin texte. Nous avons donc au début la première et la huitième. Il faudrait les premières et huitièmes en même temps, c'est possible ça?
En même temps.
Et heureux les pauvres en esprit, puis la deuxième, la huitième. Il y a huit heureux. Il y en a neuf en tout, mais on va examiner la première et la huitième parole où ça commence par heureux. Il y a heureux les pauvres en esprit. Le royaume des cieux est à eux, et dans exactement la même phrase, le royaume des cieux est à eux, dans la huitième, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Cette phrase, le royaume des cieux est à eux, elle est au présent. C'est ça qui est remarquable dans cette première et cette huitième parole. Les pauvres en esprit, déjà, le royaume des cieux, il est à eux, déjà maintenant. Et les persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux, déjà. Pas seulement il sera à eux, non, il est à eux. Et cette façon d'écrire un texte en disant la même chose au début et la même chose presque à la fin, ça s'appelle, un genre littéraire qui s'appelle l'inclusion. On a ça parfois dans les films, on voit une scène au début d'un film maintenant, et parfois à la fin vous retrouvez la même scène et vous comprenez mieux ce que vous avez vu au début. Le royaume des cieux est à eux, c'est au verbe présent, le verbe être est au présent. Vous pouvez vérifier dans le grec. Le royaume des cieux est déjà à eux maintenant. J'ai traduit, moi, les pauvres en esprit, j'expliquerai ça plus tard. Donc Jésus donne le royaume des cieux maintenant, et pas dans le futur. On verra qu'il y a aussi un futur, mais déjà maintenant, le royaume des cieux existe sur la terre. Ce sont les pauvres en esprit à qui est attribué ce royaume des cieux, qui l'ont présentement dans la vie présente, la vie sur terre, et ceux qui sont persécutés pour la justice. Le mot justice revient deux fois, ceux qui sont persécutés pour la justice, ceux qui ont faim et soif de la justice. Et le mot justice apparaît aussi dans le baptême de Jésus, dans Matthieu, c'est spécial à Matthieu, quand Jean-Baptiste ne veut pas baptiser Jésus, Jésus lui dit, laisse faire, et c'est ainsi qu'il nous faut accomplir toute justice. Donc il y a une justice sur la terre. Elle a été accomplie par Jean-Baptiste et Jésus ensemble. Il nous faut ainsi accomplir toute justice. Toute justice est en Jésus, baptisé par Jean. Toute justice est là-dedans. Nous recevons toute notre justice de cet événement du baptême de Jésus. Par Jean, qui annonce le baptême sur la croix, car Jésus parle aussi d'un autre baptême qui lui tarde parfois d'être, qui soit accompli, c'est le baptême du sang, le baptême sur la croix, où il nous baptisera du Saint-Esprit. Voilà, j'ai lâché le mot de Saint-Esprit. Ces choses sont incompréhensibles, que c'est ce bonheur que Jésus donne. Et c'est incompréhensible. Il y a un humoriste français très célèbre qui a fondé les Restos du Cœur, Coluche. Il a dit que ce sont des paroles complètement stupides que Jésus a prononcées. Il se moquait de cet enseignement. Parce qu'effectivement, Jésus donne le bonheur à tous ceux que nous on déclare malheureux. Ils sont visiblement malheureux, ceux qui pleurent, ceux qui n'utilisent pas la force pour s'affirmer face à ceux qui veulent les détruire, ceux qui ont faim et soif de justice, de miséricordieux, ceux qui sont pauvres. C'est des malheureux. C'est ce que tout le monde vous dira. C'est des malheureux. Mais non, Jésus dit qu'ils sont heureux. Alors, c'est pas possible humainement de dire ça. Mais c'est possible quand Jésus le dit. Parce que quand lui, il dit, il réalise, il fait advenir ce qu'il dit. Et n'oublions pas que cet enseignement a été précédé par des quantités de guérisons. Je lis quelques versets plus haut, au chapitre 4, verset 24, sa renommée gagna toute la Syrie. J'avais jamais remarqué ça. Donc comme on a une famille originaire de là-bas, je suis scotché là. Sa renommée gagna toute la Syrie. Et on lui amena tous ceux qui souffraient en proie à toutes sortes de maladies et de tourments. Donc il y avait des gens malheureux, ils étaient tourmentés, des démoniaques, des lunatiques, des paralysés. Il les guérit. N'oublions pas ça, que les paroles de Jésus ne sont pas les paroles d'un philosophe ou d'un mystique qui est détaché de la réalité. Il vient de faire tous ces miracles. De grandes foules le suivirent, je lis au verset 25, juste au-dessus de notre texte, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'autres, et d'au-delà du Jourdain. Et c'est à la vue de ces foules qui avait vu les guérisons que Jésus donne cet enseignement, qui nous paraît si impossible à comprendre. Alors, quand quelque chose est impossible, que Dieu dit quelque chose et que c'est impossible, faut aller vers Dieu. Oui. Si Dieu dit quelque chose d'impossible, il sait ce qu'il dit, lui. Et donc, c'est vraiment un encouragement que nous avons aujourd'hui, là, à aller vers Jésus. Il nous donne un bonheur qui nous paraît contradictoire avec ce que nous vivons, avec ce que autour de nous, les gens vivent. Les gens vivent dans un malheur terrible autour de nous. Sont complètement déboussolés par toutes les injustices et toutes les violences et tous les mensonges incessants qu'on entend et les horreurs qui reviennent sans arrêt prennent le devant de l'actualité. Nous sommes présentés comme des informations. Ben voilà, nous avons ici une information sur le royaume de Dieu. Il est aux pauvres en esprit, il leur appartient maintenant, ils y sont. Il est à ceux qui sont persécutés pour la justice. Il est là sur la terre, dans ces gens-là. Il est là. Ce royaume de Dieu est là. Il nous faut comprendre, à travers ces paroles, que Jésus les incarne lui-même. Il ne nous dit rien que lui-même n'est pas en train de vivre. Il y a une unité en Jésus, du fait qu'il est pauvre, et en même temps il est immensément riche. C'est cette richesse que nous recevons de lui. Mais lui est pauvre. Il a faim, il a soif. Et il nous fait boire. Nous voyons ça très clairement dans le récit de sa rencontre avec la femme samaritaine. Il a soif. C'est elle qui boit maintenant. Elle boit encore. Parce que Jésus a dit, l'eau que je vais te donner là, ça va être une source qui va couler éternellement. Elle boit encore à cette eau. Elle boit encore aujourd'hui à cette eau. Et sur la croix, il a soif. Et de son côté percé a coulé l'eau et le sang. Donc Jésus incarne ce qu'il dit. C'est à lui que nous allons pour que nous aussi on incarne ce qu'il dit. J'ai choisi de traduire, alors non, il me faudrait le deuxième texte, Sophie, en esprit, de traduire les pauvres en esprit, donc tout bas. Pourquoi? Parce que le mot esprit apparaît justement dans les textes précédents, notre texte, dans le baptême. Jésus sortit de l'eau, il vit l'esprit de Dieu descendre. Et quelques deux versets plus loin, dans Matthieu 4, verset 1, Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté. Si on peut résumer, je vais résumer d'une certaine façon la tentation que Jésus doit subir dans l'Esprit, par l'Esprit, par l'Esprit Saint, c'est un appauvrissement ce qu'il va subir. Parce qu'il vient d'entendre une belle parole de Dieu, tu es mon fils. Il est dans une communion d'amour avec son Père. Et là, dans le désert, le diable utilise cette parole, tu es mon fils, pour lui faire faire quelque chose par lui-même, pour ne plus avoir faim, pour ne plus avoir cette perspective d'aller vers la croix, d'être accueilli dans ce qu'il va faire, dans ce qu'il va dire. Jésus ne sera pas accueilli sur la terre. C'était déjà indiqué pour sa naissance, il n'a pas été accueilli. Il a fallu qu'il naisse dans une étable, mais il n'a pas été accueilli non plus après. On l'a rejeté, on l'a mis sur la croix. Le diable essaie de lui faire croire que tu es mon fils, ça veut dire qu'il va échapper à la pauvreté. Qu'il va échapper aux pleurs, pour Jésus a pleuré dans sa vie, qu'il va pouvoir échapper au rejet. Le diable lui dit, je te donne tous les pays, mais un petit peu une génuflexion devant moi, ça suffira, je te donne tout. Donc Jésus est vraiment pauvre. Il a choisi cette pauvreté. Il a choisi de ne rien avoir comme sécurité sur terre, ni de la part des hommes, ni de la part de la création. Il était que en sécurité auprès de son Père dans la prière. Et il nous donne de vivre cette même sécurité. C'est pour ça que j'ai traduit « Heureux les pauvres en esprit ». Il n'y a pas le mot « cœur », même si c'est traduit comme ça dans la Torah. C'est les pauvres dans l'esprit. Maintenant, la diapo suivante, il y a neuf paroles qui commencent par heureux, et il y en a, la plupart commencent par heureux, et il y a une promesse qui est au futur. Ils hériteront la terre, ils seront consolés, ils seront rassasiés, ils obtiendront miséricorde. Ils seront appelés fils de Dieu. Et là, pourquoi maintenant on a un futur? J'ai insisté, j'espère que j'ai insisté avec assez clairement sur le fait que le royaume de Dieu est maintenant là, sur la terre, dans les pauvres en esprit, dans ceux qui sont persécutés pour la justice. Il est là, il est à eux. Il n'y a pas à attendre qu'ils viennent. On attend qu'ils viennent parce qu'on le dit aussi. Mais il est aussi déjà là, parce qu'en Jésus, tout est là en même temps, la pauvreté, la richesse, l'humiliation, la gloire, la faiblesse, la force, tout est en même temps en Jésus. C'est ce que nous célébrons aussi dans la Sainte Cène, tout est en même temps, sa mort et sa résurrection. Nous ne boirions pas du vin qui est le sang du Christ, nous ne mangerions pas du pain qui est la chair du Christ, s'il n'était pas ressuscité. Et c'est aussi sa mort que nous célébrons. Tout est en même temps. Le royaume de Dieu est là. Dans les pauvres en esprit, dans ceux qui sont persécutés pour la justice. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5 paroles. 1, 2, 3, 4, 5 qui commencent par heureux et qui se terminent par un futur. Ça veut bien dire que c'est une marche, une progression. Le mot heureux, en hébreu, On l'a traduit parce qu'il faut bien traduire, mais le mot est heureux. Vous savez que André Chouraki l'a traduit tout à fait différemment, il l'a traduit en marche. Et moi, dans le petit livre que j'ai écrit sur le psaume 1 et 2, les progressions de. C'est un mot très riche, difficile à traduire. Je vous dis que dans le mot heureux en hébreu, il y a l'idée qu'on va quelque part, on sait où on va. Et on est en route. Et ça, c'est du bonheur. Le pire malheur, c'est d'être perdu, de savoir où on va, de ne pas savoir quoi faire de ma journée, du temps que j'ai sur cette terre, je ne sais pas quoi en faire. Ça, c'est le pire des malheurs. De vouloir la mort. Donc, vous voyez qu'il y a une progression, un développement de ce royaume de Dieu en nous. Ils hériteront, c'est du futur. Ils seront consolés. Ils seront rassasiés. Ils obtiendront miséricorde. Ils seront appelés. On vit, comme Jésus, on vit la faiblesse, la force en même temps. C'est une marche. On sait où on va. Ça, c'est le bonheur, quand même, de savoir où on va. J'ai beaucoup aimé le cardinal Lustiger. Je l'ai vu quelques jours avant sa mort. Il était à l'Académie française. On ne sait pas pourquoi, mais il avait reçu cet honneur. Le dernier discours qu'il leur a dit, à ces grands-là, académiciens, les grands sages de notre pays, il savait qu'il allait mourir, il avait un cancer déjà avancé. Il leur a dit, je sais où je vais. Il avait le Christ en lui, et le Christ nous dit où on va. Je suis le chemin, hein, c'est écrit là. J'ai rajouté au texte indiqué l'histoire du sel et de la terre, et de la lumière, le sel et la lumière. Il m'est venu à l'esprit que, on n'ose pas se croire sel et lumière, bon, n'empêche que Jésus a dit, vous êtes le sel, vous êtes la lumière, nous savons que c'est indispensable à la vie, c'est que ça qui donne le goût de vivre. Hein. Mais est-ce que vous avez réfléchi, ça m'est venu tout d'un coup, que personne ne regarde le sel et personne ne regarde la lumière. Le sel et la lumière sont importants pour ce qu'ils produisent, du goût, de la saveur, à ce qu'on mange. Et la lumière, elle fait qu'on peut se diriger, qu'on voit notre prochain, qu'on le voit, qu'on voit la création. Personne ne regarde le soleil, mais le soleil est nécessaire, la lumière est nécessaire pour vivre. C'est ce qui produit, ce qui est important. Et bien nous, pareil, c'est pas que les gens nous regardent qui est important. Ça n'a aucune espèce d'importance, mais c'est qu'on produise quelque chose. et on ne le produira pas avec notre force, mais avec l'Esprit Saint. Pauvres en Esprit Saint, le royaume des cieux est à eux, ils vont permettre à d'autres de le voir ici sur cette terre. Persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux, ils permettent à plein de gens de voir le royaume de Dieu ici sur cette terre. Et je donne un exemple que j'ai découvert cette semaine au Nigeria. Vous savez que c'est le pays où les chrétiens sont le plus tués. Chaque année. Chaque année, c'est de l'ordre de 1600 à 1700 tués, carrément tués, et des centaines d'autres pris en otage, kidnappés. Des filles, des hommes, on les tue. Alors, un responsable d'un monastère français est allé les visiter, il me faudrait le texte, est allé les visiter à ses risques et périls, car il risquait lui aussi d'être kidnappé. Et quand il a eu fini sa visite de ces chrétiens au nord du Nigeria, il leur a dit, qu'est-ce que je dois raconter en Europe ? Chrétiens qui vivent dans l'angoisse d'être d'un jour à l'autre kidnappés ou assassinés. Qu'est-ce que vous voulez que je dise en France à propos de la situation des chrétiens au nord du Nigeria ? Et voilà ce que les chrétiens lui ont répondu. Vous leur direz deux choses. La première qualité de l'Église au Nigeria, c'est la joie. Deuxième chose. Notre espérance est bien plus grande que nos problèmes. Je termine avec un verset dans Galates 4, 19. Paul nous dit que le Christ doit prendre forme en nous par les paroles qu'il a prononcées, Jésus. En forme en nous. J'ai choisi le cantique 23 dans Arc-en-Ciel.